MDM, plus proche de chez vous.
J'ai 10 ans, je sais que c'est pas bien, mais j'ai 10 ans. Enfin, plutôt, on a 10 ans. Bonjour Anthony Clément.
Bonjour Anthony.
Quand je dis on a 10 ans, c'est 10 ans de rendez-vous littéraire, c'est la 10e saison. C'est comme ça qu'on dit saison 10, pour un rendez-vous qui aura évolué durant toutes ces années, qui a changé de nom aussi, désormais Librairie Sociale Club, pour évoquer le réseau que vous avez tissé au cours de cette formidable décennie.
Pour parler du projet, ouais, le Librairie Sociale Club, ouais, c'est une vision de la librairie aujourd'hui, c'est-à-dire une librairie qui soit pas seulement voilà, un espace de vente de livres, mais qui soit un espace, un lieu culturel, un lieu d'échange, une scène, un café, qui a greffé une association dessus et qui est très très en lien avec l'interprofession. Et surtout les éditeurs, puisque quand même il faut rappeler que les premiers éditeurs étaient libraires, c'est vrai.
Saison 10, donc on va continuer à se retrouver toutes les semaines, peut-être deux fois par semaine même, avec des grands formats, des ouvrages, des nouveautés, des rééditions, des livres de poche, des auteurs, des éditeurs, des rencontres. La première émission qu'on a faite ensemble date de 2011. À cette époque, Lydie Salvert n'avait pas encore eu le prix Goncourt, si je me souviens bien.
Non, puisque le prix Goncourt, Lydie Salvert, pour pas pleurer, c'était 2014, en effet. Donc bien. Oui, on est sur... oui, merci.
Mémoire intacte. Je vous teste hein, quand même.
Je vois, ouais, c'était un écueil, mais non, il me semble que c'est 2014, ouais. Si je ne fais pas d'erreur, prix Goncourt pour Lydie Salvert. On l'avait rencontrée, elle était venue dans le cadre d'invitations de partenaires, et c'était une très très belle rencontre, et notamment sur les rencontres à lire de Dax aussi, où elle vient régulièrement, c'est une autrice invitée, voilà, très très régulièrement, quelqu'un qui a eu quelques soucis de santé graves, et, ouais. Mais qui a toujours... cette position debout, d'ailleurs ça fait évidemment écho avec son titre qui sort là à la rentrée littéraire qui est sorti le 19 août et qui s'appelle Rêver debout aux éditions du Seuil. On voit une femme qui évidemment est entrée dans la période de sagesse, on va dire, ouais. Aussi, mais toujours derrière ce feu qui brûle, prêt à... Voilà, à être sentinelle, garde-fou de notre époque, tout en convoquant, et c'est ce qu'on va en dire, évidemment, des figures tutélaires, voilà, de la littérature mondiale.
Rêver debout, derrière ce titre, c'est l'ancienne psychiatre qui parle ?
Ah, bien vu. Certainement, puisqu'il y a quand même une analyse profonde. Il y a aussi le style du livre, sa forme aussi, ouais. Voilà, qui sont très étonnantes. C'est-à-dire que, alors pour ceux qui n'ont pas lu Rêver debout, qui vient de paraître, elle m'a mis deux beignes, on va dire, ouais. Pour la rentrée littéraire. Elle m'a mis cette première beigne avec Rêver debout aux éditions du Seuil, et puis un petit uppercut. Ou pire, je ne sais pas comment ça s'appelle quand
un petit crochet.
Ouais, non, quand on te met les doigts dans les yeux.
Une fourchette.
Rugby. Voilà. Et derrière, elle te met une fourchette aux éditions Tristram.
Il me tarde que le troisième sorte.
aux éditions Tristram, ça s'appelle Famille. Ça n'a rien à voir ouais. Avec Rêver de vous, mais c'est encore tout à fait étonnant et un des titres de la rentrée. Donc Rêver de vous, qu'en est-il aux éditions du Seuil? Elle convoque par le biais d'une sorte de livre manifeste, de roman manifeste, ouais. De roman épistolaire. Même. Alors, c'est une sorte de quinzaine de lettres adressées à Cervantes, où elle convoque justement son personnage, son Hidalgo, qui est donc Don Quichotte, et s'en sert pour pourfendre notre époque. C'est-à-dire qu'elle s'adresse à Cervantes de manière assez invective, tout en colère.
Qu'est-ce qu'elle lui reproche ?
Elle lui reproche de malmener son personnage quelque part, qui se situerait... lui, plus proche de la vérité que nous le sommes tous. C'est-à-dire que cette réalité que nous acceptons, avec évidemment ses injustices, ses iniquités, ses problèmes, ses chocs de civilisation, tout ça, elle semble convoquer ce personnage pour dire Don Quichotte, en fait, au final, même s'il se bat contre des moulins à vent, même s'il est hors réalité, même si Sancho Panza le ramène régulièrement justement à la réalité, en fait, n'est-il pas plus près de la réalité avec un grand R ou de la vérité, c'est-à-dire celle qui convoque l'imaginaire, les rêves, pour transformer aussi le réel et qui, par ce biais-là, permet de transformer le réel. C'est-à-dire que Don Quichotte est par exemple un des... c'est pas du tout dans l'air du temps, mais ce sont des combats que l'on voit souvent autour de nous. Mais par exemple, c'est un des premiers féministes quand il prend la défense de Marcel. Elle convoque tout le temps Don Quichotte justement pour éclairer notre contemporanéité, ouais. Et en même temps engueuler Cervantes de lui faire vivre tant et tant du fait de son rôle d'auteur et donc voilà, qui tient cette marionnette de Don Quichotte, elle lui parle comme à un ami de très très longue date, en lui reprochant énormément de choses, tout en pointant du doigt, évidemment.
Mais c'est ce qu'on fait avec les vrais amis.
C'est exactement ce que l'on fait avec les vrais amis. Donc du coup, Don Quichotte cristallise un peu la figure de l'idéaliste, comme beaucoup de textes l'ont fait, comme Goliarda Sapienza l'a fait avec Moi, Jean Gabin, par exemple, pour raconter sa jeunesse. Donc sous cette forme de quinzaine de lettres, de romans épistolaires, lettres adressées à Cervantes, on a évidemment un nombre incroyable de références et toute l'intelligence pour nous la rendre de Lydie Salvert, comme vous l'avez dit, la psychologie évidemment, mais aussi les grandes figures de la littérature, les grands mouvements aussi de lutte. Donc on va retrouver Antonin Artaud, Lautréamont, Hölderlin, Van Gogh, Chaplin, Simone Veil, O Brother par exemple, voilà. Mais on va aussi
convoquer le film.
Ouais, tout à fait. On va aussi convoquer Plotin, Pasolini, Deleuze, et en même temps parler de ces sortes de rapports de domination qui nous permettent par l'Hidalgo justement d'entendre justement ces enjeux aussi de notre époque et ceux de l'époque de Cervantes. Donc on a une sorte, même elle en fait, ça vous aimez bien cette littérature, mais une sorte de loser magnifique, elle le dit, page 69, qui rappelle évidemment les clochards célestes.
Ouais. C'est-à-dire qu'entre Brother et Pasolini, l'éventail, je ne sais pas si c'est le mot qui convient, est large.
Ouais, et donc je conseille évidemment aux lecteurs, aux lectrices, ce roman pour ceux qui... Déjà, pour la langue, pour l'écriture, c'est absolument intelligent. C'est vrai que quand elle était sur le plateau de la Grande Librairie, j'avais trouvé ses propos un poil convenus, qui ne sont pas du tout ceux du texte, pour le coup. On a vraiment ce côté nerveux du texte, de l'écriture, ce côté cristallisant aussi de figures qui nous font du bien, parce que dans le paysage politique ou même des intellectuels en France aujourd'hui ou dans le monde, voilà, on reste quand même très régulièrement sur notre faim. Et là, avec Lydie Salvert, on prend toute la mesure de l'héritage littéraire des grands, grands textes qu'il faut absolument relire pour entendre nos époques.
Lydie Salvert, Rêver debout, c'est aux éditions du Seuil. Vous le confiez à un autre ouvrage. On parlait de l'ancienne psychiatre il y a quelques minutes. Lydie Salvert, on est vraiment au cœur du sujet. Alors dans Famille.
Peut-être totalement dans son second titre, qui est très très court. Hein. Là, on est sur à peu près entre 28 et 38 minutes de lecture. Quoi. Voilà, ça va très très vite. Très court texte donc aux éditions Tristram. Dès le début, le diagnostic tombe. Le fils est schizophrène. Le père en a totalement honte et la mère le chouchoute énormément, plus ou moins en secret. C'est pour ça que je disais une fourchette tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on prenait deux doigts dans les yeux, parce qu'en fait elle nous fait être, le lecteur devient évidemment le voyeur de cette famille, un peu en huis clos comme ça, où en fait trois monstres se déchirent, et elle va sous la narration un peu du fait divers nous proposer un court récit sur, pour éclairer justement la période Covid aussi, et ce que ça fait ressortir comme mauvais sentiments, comme mauvaise lecture de notre époque, la dimension conspirationniste énormément qui a été vraiment exacerbée par la période Covid. Et donc entre ce père balourd, entre cette mère grâce et ce fils conspirationniste, voilà, on est dans quelque chose vraiment qui sent fort et qui gratte. Vraiment. Et en même temps, on est dans une sorte... Alors, je ne sais pas si Lydie Salvert serait d'accord, et là, vous avez eu raison, justement, de pointer du doigt ses formations et son boulot à Lydie Salvert, c'est qu'on est vraiment dans une sorte de complexe d'Oedipe à la sauce Covid, quoi, une sorte de drame familial... assez malsain et en même temps qui éclaire énormément nos dérives et lié surtout aux médias, aux réseaux et à la télévision dans ce qu'ils ont de plus détestable et de plus dangereux, quoi. C'est-à-dire qu'on est, l'éducation aux images est extrêmement importante. Il faut absolument qu'elle se développe parce qu'on a véritablement des soucis à se faire dans la construction des esprits et même des plus jeunes. Voilà.
On est dans le huis clos de la claustrophobie intramuros. La preuve, c'est que tout est condensé, nerveux, sur une trentaine de pages. Ça s'appelle Famille et c'est l'autre ouvrage de Lydie Salvert.
Édition Tristram. Tristram, magnifique éditeur. Ils sont basés à Auch.
MDN. Bienvenue sur la moins pénible des radios.